Je fais pas beaucoup de sponsoring sur ce podcast, mais cette fois c'est différent parce que cette fois, le sponsor, bah c'est moi. J'ai une info à vous faire passer. Ma toute nouvelle formation Stratégie Persona est disponible. Stratégie Persona, c'est la solution pour toutes les personnes qui ont du mal à trouver des clients. Toutes les personnes qui ont du mal à définir qui sera leur prochain client. Toutes les personnes qui ont du mal à trouver les mots justes pour parler à leurs clients. Parce que oui, vous savez que mettre vos clients au cœur de votre stratégie, ben c'est ce qui va vraiment faire décoller votre marque. Sauf que c'est pas si simple que ça. Alors j'ai créé tout simplement la formation la plus complète du marché sur le persona. Et je vous fais une promesse, si vous la suivez et si vous l'appliquez, dans une semaine, vous saurez exactement qui est votre client idéal et ce qu'il faut lui dire pour qu'il achète. Stratégie Persona est disponible sur mon site, lepodcastdumarketing.com/stratégie persona. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 142. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'on est en train de vivre une période un peu particulière où tous nos repères changent, les choses évoluent très vite et on ne sait pas vraiment ce qui va nous arriver demain. Et ce monde, il change tellement vite qu'on risque de louper le train et de finir par ne plus reconnaître ce qui se passe autour de nous. Et pour ce qui est de notre entreprise, le risque, c'est de ne plus comprendre nos clients. Parce que oui, si le monde change, si notre environnement est bouleversé, nos clients aussi sont en pleine évolution. Les choses sont déjà assez compliquées comme ça, il ne s'agirait pas de casser le lien qu'on a mis tant de temps à tisser. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on se penche sur l'évolution de notre société. Rien que ça, aujourd'hui, je reçois la directrice marketing France de Twitter, Ikram Elboyadi. On se connaît déjà avec Ikram, puisqu'elle est intervenue sur le podcast du marketing il y a à peu près un an. Elle était venue nous parler de l'étude Twitter Trends qui identifie les grandes tendances de discussion du moment. Alors elle revient aujourd'hui avec les résultats de cette année et accrochez vos ceintures, en un an seulement, tout a été bouleversé. Les choses vont vite, très vite, c'est pas le moment de rater le train. Dans cet épisode, Ikram nous dévoile les trois grandes tendances de demain, mais surtout, elle nous explique ce que ça veut dire pour notre marketing. Si vous voulez mon avis, on n'a plus le choix. Passer à côté de ces trois tendances, c'est rester sur le quai. Je vous propose d'accueillir tout de suite Ikram Elboyadi. Bonjour Ikram et bienvenue à nouveau sur le podcast du marketing.
Bonjour Estelle.
Je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui. Tu étais déjà venue sur le podcast il y a à peu près un an, c'était l'été dernier. Tu étais venue pour nous parler d'une étude Twitter Trends notamment, qui détaille les tendances de notre société en fait, qu'on retrouve sur Twitter. Tu vas nous expliquer tout ça. Et tu reviens aujourd'hui pour nous en reparler parce que en fait, en un an, il s'est passé beaucoup de choses et les choses ont pas mal évolué au niveau de ces tendances. Donc, on voulait faire le point ensemble avant qu'on détaille tout ça et que tu nous en dises plus. Est-ce que, Ikram, pour celles et ceux qui ne sauraient pas qui tu es, qui n'auraient pas écouté l'épisode de l'an dernier ou qui ne s'en souviendraient pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais, Ikram ?
Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup. Je suis ravie d'être de retour sur le podcast. Alors, donc, je m'appelle Ikram et je m'occupe du marketing chez Twitter France. Donc, effectivement, je suis ravie de parler de cette étude. Il s'est passé beaucoup de choses. On va en discuter ensemble. Des choses nouvelles et puis des tendances super intéressantes et passionnantes qui, je pense, sont assez inspirantes quand on fait du marketing et quand on pilote une entreprise. Donc, voilà, plein d'insights assez utiles.
Ouais, c'est vrai, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que tu vas pouvoir nous expliquer comment est-ce que la société, enfin on va en parler, mais comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer dans notre société, et on sait évidemment qu'avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, les choses évoluent quand même assez rapidement, bien sûr, mais en plus de ça, on arrive à utiliser ces éléments-là pour trouver des choses concrètes qu'on va pouvoir faire, nous, dans nos entreprises. Et c'est là où c'est vraiment super intéressant. Est-ce que tu peux me rappeler, Ikram, nous rappeler à toutes et à tous, ce que c'est que cette étude Twitter Trends et voilà, à quoi ça sert et comment vous fonctionnez?
Oui, bien sûr. Alors, Twitter Trends, c'est une étude internationale qu'on lance tous les ans dans plusieurs pays, dont la France. Ce qu'on s'attache à regarder, c'est effectivement de décrypter les conversations, parce qu'effectivement, les tweets disent beaucoup. Les tweets, c'est des morceaux de conversation, mais finalement, c'est des signaux assez forts sur ce qui est de l'ordre d'une préoccupation pour un consommateur, des grands sujets qui sont intéressants pour eux aussi. Donc, à travers, en fait, cette étude, on regarde ces conversations qui sont en hausse et qui explosent sur la plateforme, sur Twitter. Parce que finalement, Twitter, c'est un peu le pouls de la planète. Quand il se passe quelque chose, on voit tout de suite dans les conversations que les gens en parlent, c'est ce qui se passe dans le monde. Donc, dans cette étude, on est allé regarder les grands sujets qui sont intéressants pour ces fameuses tendances de demain, qu'il est essentiel de comprendre quand on fait du marketing, parce que ça nous permet de travailler notre communication, de travailler notre pertinence aussi culturelle. Donc c'est en ça que c'est stratégique pour nous de répondre à beaucoup de marques qui nous posent des questions toutes simples du style qu'est-ce que les gens disent sur Twitter, de quoi on parle, quels sont les grands sujets clés. Et donc cette étude, elle vient répondre à cette question-là, effectivement de comprendre quels sont ces grands sujets, et surtout, à travers cet échange, aussi pouvoir vous donner des conseils sur comment s'en inspirer pour optimiser ou améliorer ou changer des choses dans sa manière de communiquer.
Ouais, c'est vraiment super intéressant. Effectivement, c'est ce qu'on disait, on en parlait en off juste avant. Ce qu'on disait, c'est que Twitter, c'est vraiment un outil super immédiat. C'est-à-dire, il se passe un truc, bim, tout de suite, ça réagit sur Twitter. Donc, tu vois vraiment tout ce qui se passe dans l'actualité, mais c'est pas au sens news, hein, quand je dis l'actualité, c'est dans ce qui se passe dans notre vie, finalement. Tu vois tout, c'est une espèce de fil chronologique de tout ce qui est en train d'arriver. Et donc, en reprenant comme ça toutes ces discussions, est-ce que c'est via les hashtags ou c'est plus large que seuls les hashtags et ça vient prendre les éléments dans la discussion? Comment est-ce que ça fonctionne?
Ouais, c'est beaucoup plus large que ça parce qu'on a vraiment fait une analyse pour le coup assez poussée d'un point de vue sémantique, c'est-à-dire qu'on regarde les hashtags, leur hausse, mais on va regarder aussi tout simplement la manière dont les gens s'expriment, donc avec effectivement toutes les subtilités qu'il peut y avoir dans le langage, qui peuvent aussi varier grandement d'un marché à un autre. Donc on regarde bien au-delà des hashtags ces thématiques qui sont en hausse. Peu importe finalement s'il y a des fautes d'orthographe ou si la syntaxe n'est pas parfaite, on regarde vraiment ces thèmes communs qui drainent le plus de conversations.
Super intéressant. Ça doit être effectivement un très très gros... Parce que je ne sais pas combien il peut y avoir de tweets par jour ou sur une année, mais j'imagine qu'il y en a un nombre assez conséquent. Ça doit être effectivement un très très gros travail de sémantique à faire, mais c'est d'autant plus riche du coup effectivement parce que ça nous permet de récupérer énormément d'informations. J'ai une petite question qui me vient là en discutant avec toi. Tu me disais que cette étude, elle est internationale. Est-ce que les choses sont très différentes? Est-ce que les résultats, on va rentrer dans le détail des résultats, mais est-ce que les résultats sont radicalement différents d'un marché à l'autre ou est-ce qu'il y a une espèce de tendance de fond un peu mondiale?
Oui, alors bien sûr, c'est des thèmes qui sont communs et complètement transverses. Donc là où il y a des différences, ça va être évidemment dans les détails de chacune de ces tendances, la manière dont ça prend forme. Donc il y a beaucoup de subtilité après dans le détail sur chacune de ces tendances, mais les thèmes sont vraiment des thèmes macro de société qui nous touchent tous, hein.
Ok, super intéressant. Oui, donc là, on va vraiment... Moi, quand j'étais au début de ma carrière, mes managers me parlaient de... Pardon, je vais le dire en anglais parce que c'était en anglais, de helicopter view. C'est-à-dire, monte un petit peu, prendre la hauteur pour essayer de voir les choses en grand. C'est un peu l'objectif ici avec cette étude. C'est vraiment de s'élever un tout petit peu pour regarder de façon globale ce qui est en train d'arriver j'ai envie de dire à l'humanité, c'est un bien grand mot, hein, mais voilà, de ce qui se passe dans nos sociétés de façon super large. Super bien. Alors écoute, je te propose, Ikram, qu'on rentre dans le vif du sujet. Ce que tu me disais, c'est que cette étude, elle met en exergue évidemment plein de sujets et de thèmes différents, mais vous avez identifié trois grands thèmes vraiment plus prégnants et plus présents sur l'ensemble des marchés. Peut-être on peut commencer par un premier thème qui est un thème malheureusement d'actualité. Au moment où on enregistre cet épisode, on est en plein été, hein, on est en toute fin juillet, il y a des feux de partout en France et dans le monde. Ce premier grand thème, cette première grande tendance de discussion, c'est une discussion autour de l'écologie. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qui change surtout?
Oui, alors bah, tu as raison, hein, c'est vraiment un thème qui continue d'animer les débats sur la plateforme. C'est une tendance dont on a parlé l'été dernier dans le cadre de cette étude Twitter Trends. Donc, c'est évidemment pas nouveau, mais il y a des petites choses qui changent dans la manière dont ça se matérialise dans les discussions. Bon, premièrement, évidemment, c'est une préoccupation majeure. Donc, on sent qu'il y a un important désir d'action dans les discussions. Et ce qu'on voit peut-être plus par rapport à l'année dernière, où je pense que l'année dernière, on sortait évidemment du Covid, donc il y avait cette notion d'individualiser l'acte et l'engagement écologique. Ce qu'on voit encore plus cette année, c'est une envie et une volonté très profonde d'interpeller les pouvoirs publics. Mmh. Alors évidemment, il y a le contexte électoral qui est passé par là, mais enfin, ce qui joue beaucoup, ça va être ces grands changements qu'on veut voir en fait, de prise de conscience des politiques et d'évolution des choses bien au-delà en fait de ce qu'on pourrait faire toi et moi dans notre quotidien, qui était plus finalement ce qu'on voyait l'année dernière. Donc typiquement, tu vois, dans les stats clés, on va voir que il y a plus 137% de mentions d'action pour le climat. Mmh. Et ça s'accompagne, c'est pas neutre, parce que ça s'accompagne d'une certaine forme d'anxiété un petit peu quand même, parce qu'on voit aussi que les termes éco-anxiété sont aussi beaucoup utilisés dans les conversations. Donc c'est pas neutre, je pense que ça dit des choses sur la manière dont les gens se sentent, hein, finalement, comment ils se sentent par rapport à ce thème-là.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que là où peut-être l'an dernier et l'année d'avant avec le Covid, toute cette anxiété, cette angoisse était cristallisée un petit peu autour de la santé, bien sûr, du Covid et tout ça, là c'est en train, mais c'est probablement en partie au moins lié, hein, c'est en train de se déplacer vers quelque chose de beaucoup plus global, d'écologie globale et de l'avenir finalement, alors j'allais dire l'avenir de notre planète, c'est peut-être pas l'avenir de notre planète, mais plus l'avenir des hommes qui sont sur cette planète, hein. Mais en tout cas de notre avenir face à ces bouleversements écologiques qu'on ne peut plus nier à part certains extrémistes, mais en tout cas c'est quelque chose qui vraiment est présent. Et tu disais, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que, et pourtant s'il y a une année de différence, moi c'est ça qui est vraiment fou, je trouve, c'est que tu disais l'an dernier, il y avait cette prise de conscience qui était peut-être déjà existante peu ou prou, mais qui devenait en tout cas beaucoup plus présente, mais qui était relativement individuelle. C'était, ben regarde, je participe à Time for the Planet par exemple, enfin je donne des exemples qui me viennent moi à l'esprit, hein, mais des choses individuellement, qu'est-ce que moi je peux faire. Là où maintenant, en plus de cette individualité, il y a quelque chose de global qui arrive où tu dis attention, les gouvernements, c'est de votre responsabilité aussi, et c'est finalement à l'humanité de bouger et des choses beaucoup plus grandes. Ça a un intérêt évidemment pour les marques. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas que les marques laissent de côté et qu'elles n'entendent pas, parce que ça peut laisser énormément de choses de côté si on n'écoute pas ça.
Tout à fait. Oui, bien sûr. Mais je pense que sur ces choses-là. D'ailleurs, sur ça et sur beaucoup d'autres choses, ce qui va être intéressant de faire, ça va être de continuer à mettre en avant ces efforts, parce qu'il y a plein d'entreprises qui font plein de choses, et parfois c'est des petites choses, mais qui comptent énormément. Et donc je pense que c'est intéressant de communiquer, peut-être d'informer sur tout ce qu'on fait d'un point de vue produit ou d'un point de vue même dans sa communication, pour essayer de s'aligner en fait avec ses préoccupations de consommateurs. Donc montrer comment est-ce qu'on agit, peut-être même donner la parole aux personnes qui travaillent au sein de l'entreprise, pour montrer comment est-ce qu'au sein de, au niveau de l'entreprise, comment est-ce qu'on agit pour peut-être voilà, réduire son impact, recycler, etc. Enfin, toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'on travaille sur la composition de ses produits. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, dans mon fil Twitter, j'ai vu passer c'était une campagne, donc c'est une publicité, hein, mais pour un produit anti-moustique. Alors bon, oui, je me fais énormément piquer par les moustiques, je fais partie de ces gens-là. Voilà. Et donc du coup, je suis tombée par hasard, enfin pas tout à fait par hasard, parce que j'avais tweeté récemment sur les moustiques. Et donc, en fait, cette entreprise, qui est une entreprise marseillaise, a reciblé toutes les personnes qui avaient utilisé le terme moustique sur les 30 derniers jours avec un ciblage assez puissant. Et donc, j'ai pu voir ce produit qui avait une composition super courte, c'est fabriqué dans le sud, c'est un produit écolo. Donc là, moi, je trouve que c'est une bonne manière, typiquement de manière super concrète, de montrer comment est-ce que dans ces produits, on travaille à effectivement respecter, préserver l'environnement, faire quelque chose de relativement, voilà, de sain, produit localement. Et il faut savoir que Twitter, c'est assez utilisé pour ça, justement pour lancer une nouveauté, parce que les gens sur Twitter sont très réceptifs aux nouveautés, on va dire, de manière générale. Donc j'aurais tendance à conseiller peut-être voilà, ce type d'action en utilisant des formats différents. Hein. Ça peut être des vidéos, ça peut être juste des tweets, hein, finalement, pour informer sur ce qu'on fait, informer sur ses produits et au sein de son information produit, expliquer sa démarche.
Ouais, alors je te rejoins complètement. Il y a quelques mois, j'avais reçu Julien Reynaud, qui est un spécialiste de la communication green. Et on avait parlé de greenwashing, notamment, et de faire comment faire. Parce que c'est une vraie question aussi pour les marques, hein, de parler écologie. Le risque, c'est de savoir quelle balance je mets, comment je fais pour pas tomber dans le greenwashing, dans j'en raconte des tonnes, alors que, bon, voilà. Et ce qu'il expliquait, je trouvais ça super intéressant et ça va vraiment complètement avec ce que tu dis, c'est que pour qu'une une entreprise communique bien, maintenant, il faut qu'elle communique, ou en tout cas qu'elle se pose des questions sur son rapport à l'écologie, parce que sociétalement, et tu vois, la première tendance le montre complètement sur Twitter Trend, c'est-à-dire c'est une tendance qui est présente partout maintenant, qui est globale, qui n'est pas une tendance, je dirais, politicienne, où tu avais avant bah voilà, des gens qui étaient pro-écologie, d'autres qui s'en fichaient un peu. Là, c'est devenu quelque chose de vraiment complètement global. Et ce qu'il expliquait, c'est que les entreprises maintenant se doivent de communiquer là-dessus, mais pour communiquer dessus, la toute première chose à faire pour pas tomber dans du greenwashing, c'est de commencer à se poser des questions de façon complètement honnête sur... qu'est-ce que je fais, où est-ce que j'en suis sur mon rapport à l'écologie, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais mal, et de pas aller essayer de survendre aussi ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Et en fait, tu le disais, parfois c'est des petites choses. Peut-être que c'est que de dire que, je sais pas, qu'on recycle le papier quand on fait des photocopies, j'en sais rien. Mais ne serait-ce que des petites choses, c'est déjà des choses. Et c'est déjà se mettre dans une démarche. En revanche, évidemment, il faut faire super attention à ne pas faire, je crois que c'était Total, pardon, je dis Total, mais je suis presque sûre que c'était Total, il y a peu de temps qui a fait une com juste désastreuse parce que ils ont dit, alors je vais très mal le dire, je ne m'en souviens plus, mais ils ont sorti un pourcentage de, ils allaient être décarbonés en, je sais plus, 2035, alors que, bon, c'est Total... que leur activité soit décarbonée, c'est une chose, leur produit l'est pas, loin de là. Donc voilà, il faut faire attention à ce genre de choses parce que ça peut aussi faire très mal dans l'autre sens. Et pourquoi est-ce que ça fait très mal? Tout simplement, j'en reviens aux tendances, parce que c'est une tendance qui est vachement importante maintenant pour les gens et qui ne laisseront plus passer. Donc je pense que le message de cette tendance-là, il est aussi de se dire, pour notamment les responsables marketing ou les responsables d'entreprise, de se dire, je dois, ça n'est plus un choix, c'est je dois maintenant... avoir une réflexion stratégique sur mon rapport à l'écologie, quel que soit ce rapport d'ailleurs, après tout, chaque entreprise peut se positionner comme il souhaite, mais en tout cas, on est obligé de maintenant d'avoir cette réflexion-là parce que c'est l'une des grandes tendances sociétales.
Mmh. Oui, non, je suis 100% d'accord. Je pense que c'est effectivement se poser cette question de comment je fais différemment, alors à mon niveau, bien sûr, hein, avec mes ressources, mes moyens, en fonction de la nature de mon activité, parce que je pense qu'effectivement, même ça, hein, c'est déjà très riche de questionnements. Et puis après, il y a surtout le pendant derrière ça qui est d'informer. Et c'est essentiel aussi de mettre tout autant d'efforts sur le fait de raconter, d'expliquer, faire de la pédagogie sur les efforts qu'on met en place. Donc c'est en ça que, pour le coup, une plateforme de communication comme Twitter est là pour aider les entrepreneurs, les entreprises, pour pas nécessairement raconter des grands engagements, mais raconter concrètement ce qu'on fait sur le terrain, comment est-ce qu'on change sa manière de faire, produire ou ses produits tout simplement.
Exactement, bon super. Deuxième tendance qui était identifiée, je passe vraiment du coq à l'âne, hein, parce que pour le coup ça n'a pas grand chose à voir, quoi, peut-être, on va voir, mais deuxième grosse tendance, tu me disais que c'était l'influence des fans, et ça, si je me souviens bien, c'était pas une tendance qui était ultra présente l'an dernier. Pour tout te dire, Ikram, moi je pensais qu'on allait retrouver à peu ou prou les mêmes tendances entre l'année dernière et cette année, parce que des tendances sociétales, normalement, ça bouge pas comme ça. Sauf que En fait, en discutant avec toi, ce dont on se rend compte, c'est que si les choses là en ce moment, on le sait, on vit une période particulière, les choses bougent très très vite. Cette influence des fans, est-ce qu'elle était présente l'an dernier ?
Oui. Alors, c'est un thème qui est en forte croissance et ce n'est pas nécessairement quelque chose de nouveau, mais on voit que dans la manière dont ça évolue, il y a des choses qui sont intéressantes de noter. Et pour le coup, pour les personnes qui font du marketing, c'est intéressant de comprendre ce qui se passe vraiment derrière cette tendance qu'on appelle l'influence des fans. Ce que ça veut dire, c'est que Twitter, c'est vraiment un agrégat de communautés, de passions très, très différentes. Hein. On passe des animés japonais, des fans de foot, tout simplement à des shows télé. Donc, c'est vraiment du jeu, hein, du jeu vidéo aussi, qui sont des communautés très, très, très dynamiques. Mais ce qui est intéressant de noter, au-delà peut-être des thématiques, c'est la manière dont ces fans, dont ces communautés interagissent avec chacun, enfin, en fait, de manière générale. Parce que de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que ce sont les fans qui sont à l'origine des conversations, qui sont à l'origine des mèmes, quand il y a des détournements, je pense au foot par exemple, mais qui vont influencer le processus de création. Et là où c'est intéressant, je pense, en tant que marketeur, de s'y plonger, c'est que finalement, la communauté, on peut travailler des choses avec elle, peu importe son univers. Et de plus en plus, ce que j'aime bien dans cette tendance d'un point de vue marketing, c'est que ça montre à quel point c'est important de comprendre le langage de sa communauté, de s'imprégner de ce qui la passionne. Sur Twitter, donc j'ai parlé du foot cette année, c'est une année de Coupe du Monde, donc évidemment, ça va être un temps fort de conversation énorme. Et donc c'est une bonne manière aussi pour les marques de s'associer à l'actualité. Tout à l'heure, je parlais de Twitter comme manière de lancer des nouveautés. Et c'est vrai que Twitter, pour s'associer à l'actualité, c'est aussi très, très puissant. Donc ce qui va être intéressant de regarder ici, c'est comment, une fois que j'ai mon audience cible, comment est-ce que je peux bien comprendre, m'imprégner de l'univers de cette communauté pour lui parler de manière la plus pertinente possible et peut-être même interagir avec elle.
Ouais, ce que tu me disais, je trouve ça fou. Il y a quand même un gros truc avec les fans qui est, enfin avec les fans, avec le rapport qu'on a à nos marques. C'est-à-dire que en général, avant de choisir une marque ou avant de choisir un produit ou voilà, on va se renseigner. C'est de plus en plus présent évidemment avec l'arrivée d'internet, du digital, on a pu se renseigner beaucoup plus sur les marques. Il y a quelque chose qui est ultra présent. C'est les avis consommateurs qu'on retrouve sur des sites, soit sur le site d'une marque, soit sur des sites autres, typiquement Trustpilot, voilà, qui sont des sites tiers qui agrègent tous ces éléments-là et certifient ces éléments-là. Ce que tu me disais, c'est que maintenant, ces éléments de témoignages de fans qui viennent donner leur avis, voire qui viennent dire aux marques « voilà ce qu'il faut que tu fasses » et presque co-construire en amont, je trouve ça super intéressant avec eux. Ça, maintenant, ça se passe sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. On vient directement aller chercher l'information sur les réseaux, j'ai envie de dire en live et surtout sans avoir le filtre de la marque ou d'un tiers qui peut venir mettre un peu son grain de sel et mettre en avant peut-être ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Là, il y a une espèce de, j'allais dire, de réel TV, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais de réalité immédiate. De l'avis consommateur qui vient influencer et la marque et les futurs consommateurs de la marque, c'est ça ?
Exactement, ouais, c'est tout à fait ça. Alors moi, je trouve ça fascinant et passionnant parce que je trouve qu'il y a un vrai changement de paradigme dans la manière dont on achète maintenant par rapport à il y a peut-être une dizaine d'années. Et évidemment, le fait d'acheter, ça a toujours été un acte social. Et je pense qu'encore plus maintenant, quand on veut acheter quelque chose, ben, on recherche évidemment des conversations en lien avec ça. Quand on a acheté quelque chose ou un produit, on en parle, alors en bien ou en mal, évidemment. Mais effectivement, par rapport à ce que tu disais, on a une étude, nous, on a regardé ces usages, et c'est 56% des gens sur Twitter qui vont considérer que la conversation spontanée autour d'un produit, elle a autant ou plus d'impact qu'un avis traditionnel. Et je trouve ça vachement puissant parce que ça montre bien l'importance en tant qu'entreprise déjà de comprendre ce qui se dit autour de sa marque et de ses produits, mais aussi d'être présent et donc de sortir un petit peu de cette passivité et effectivement d'être au cœur de ces conversations, d'être acteur de cette conversation.
De pouvoir réagir et de pouvoir expliquer peut-être des choses. Parfois,
exactement.
Tu vas avoir des réactions qui peuvent être positives ou négatives d'ailleurs, hein, mais de ne pas laisser juste les choses partir toutes seules et créer une espèce de boule de neige et recréer une histoire, mais d'être aussi acteur de cette histoire parce que sinon, elle va se créer toute seule. Donc, effectivement.
Ouais, c'est ça. Et puis, en plus, je trouve que... Alors, c'est peut-être juste mon point de vue personnel. Hein, je sors complètement de l'étude, mais Je préfère mille fois une entreprise qui va assumer le fait de s'être plantée quelque part, donc de dire, voilà, peut-être que ça, on l'a pas produit en quantité suffisante ou que sais-je, il s'est passé quelque chose, et donc une marque qui explique ce qui s'est passé, et donc d'autant plus sur une plateforme live et temps réel comme Twitter, moi, ça me donne envie d'acheter, en fait, parce que je préfère un discours qui est authentique, un discours qui est vrai, plutôt que de la non-réponse ou juste le fait de répondre de manière un peu corporate. Et je pense que les gens attendent ça. Les gens attendent de l'interaction, attendent un discours qui est direct. Et puis même assumer, quand on se plante, assumer, le dire. Je trouve que c'est aussi véhiculer de la confiance que d'assumer bah, parfois ses échecs. C'est OK.
Absolument. Non, mais alors là, je te rejoins à 200%. Moi, je crois que de plus en plus, l'une des choses dont les marques ont besoin, c'est d'authenticité et de personnifier la marque. Les gens, ils veulent du réel. Ils veulent, voilà, ils veulent de l'humanité quelque part. Ils veulent d'autant plus sur le digital où on a quand même cette distance. Donc, il faut venir rapporter un peu du réel. Et effectivement, le réel, c'est se planter parfois. Donc, même si c'est quelque chose de négatif, je pense qu'il est préférable pour une marque d'assumer, comme tu dis, ses erreurs ou de dire que c'est pas une erreur, d'ailleurs, pourquoi pas, hein, mais en tout cas d'expliquer les choses et d'interagir plutôt que de laisser froid et de laisser les choses se faire toutes seules. Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'une marque qui t'ignore. La confiance que les consommateurs vont avoir avec leur marque ne se fait que dans la discussion. C'est encore plus vrai, j'imagine, sur Twitter où la discussion, comme tu le dis, se fait de façon immédiate, ce qui veut dire que les marques, pour moi, doivent impérativement avoir des outils qui vont leur permettre de pouvoir suivre ces discussions et de pouvoir être présents. Parce que sinon, évidemment, si elles ne savent pas qu'on est en train de parler de telle ou telle problématique, on va avoir des difficultés à interagir. Donc, ces outils-là sont nécessairement super intéressants à aller regarder pour toutes les équipes marketing. Ok, super. Troisième tendance. Et alors là, encore une fois, c'est intéressant cette étude parce qu'on a trois tendances qui sont, à mon sens, radicalement différentes. La troisième tendance et qui est sortie, alors, effectivement, une fois que tu le dis, ça paraît juste évident. En tout cas, moi, dans mes réseaux à moi, je ne vois que ça de partout. Je n'y connais pas grand-chose. Mais troisième tendance qui ressort, c'est des tendances autour de la finance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, bien sûr. Oui, c'est cette nouvelle donne autour de la finance parce qu'on parle de nouvelles façons de penser l'argent, de penser les investissements. Et finalement, il n'y a rien de surprenant sur Twitter parce que l'audience, enfin les gens sur Twitter sont très curieux. Ils sont très prescripteurs. Ils aiment bien défricher un petit peu les nouveaux sujets, les nouvelles tendances. Donc, c'est pas surprenant que finalement ce soit sur Twitter qu'on assiste à cette explosion de conversation sur, par exemple, les crypto-monnaies. C'est plus 360%, c'est énorme.
Wow.
Pour les mentions de crypto-monnaies. Alors, évidemment, derrière, on parle des fameuses crypto-monnaies que sont le Bitcoin et l'Ethereum qui sont au cœur de ces conversations. Évidemment, on observe une hausse similaire et encore même plus importante sur les NFT. Donc évidemment, alors moi non plus Estelle, je te le confie, je ne suis pas experte, mais ce qu'on voit en tout cas d'un point de vue purement conversationnel, c'est à quel point en fait ces discussions, elles ne sont pas le fait d'experts de la finance. Et c'est ça qui est intéressant de noter. C'est que tous ces tweets et ces conversations, ils sont vraiment sous l'impulsion de non-professionnels ou d'amateurs. Donc ça veut bien dire finalement qu'il y a des opportunités pour toutes sortes d'entreprises et toutes sortes de marketeurs parce que finalement, il y a plein d'intersections possibles entre ces sujets-là et plein d'univers différents. Il y a le gaming, il y a aussi les marques du luxe aussi qui s'en emparent. Donc, il y a plein de choses, je pense, à faire. Mais je pense qu'il faut quand même être vigilant parce que derrière ces sujets très excitants et très passionnants, il y a quand même un vrai langage et une vraie... pour le coup, c'est un monde à part et ça nécessite quand même vraiment de s'y plonger pour comprendre la nature des conversations et surtout s'il y a des terrains pertinents pour la marque, je pense, en fonction de son audience et de ses produits.
Ouais, tu vois, en t'écoutant, c'est marrant, ça me fait complètement penser à ce qui pour moi a été une révolution et je trouve qu'il y a un parallèle assez flagrant avec ce qui se passe sur la finance, ce thème de la finance, des NFT, des cryptos, etc., sur le digital. C'est tout à fait pour moi le parallèle de ce qui était la pub avant et ce qui est devenu la pub avec le digital. Avant, la pub, c'était vraiment pour des professionnels de la pub, des grosses marques qui avaient des gros budgets, qui pouvaient communiquer sur du mass market, à la télé, au cinéma ou dans la presse, etc. Mais c'était vraiment l'apanage de certaines grosses marques, de certains grands spécialistes professionnels. Là où le digital est arrivé, notamment les Google Ads, les Facebook Ads, enfin toutes les ads qu'on a pu trouver, qui ont donné la possibilité à soit des petites entreprises, soit même des particuliers. Maintenant, il n'y a plus besoin d'être professionnel pour pouvoir faire de la publicité sur le digital. Et ça, ça a été une énorme révolution parce que ça a démocratisé finalement la publicité. Et parce que quand tu me parles des NFT, etc., des cryptos, c'est un peu ça que j'entends. C'est-à-dire, tout ce qui est de l'ordre financier, ça a toujours été quand même, et ça le reste hein, d'ailleurs, c'est un sujet qui est éminemment technique et complexe et qui est géré, d'ailleurs qui est réglementé, hein, je le dis juste au passage, il faut faire très attention à ce qu'on dit hein, sur tout ce qui est finance, parce qu'on peut évidemment pas dire n'importe quoi, et encore heureux, on joue avec quand même l'argent des gens, donc faut pas quand même trop faire n'importe quoi. Mais effectivement, c'est l'apanage en tout cas de grands spécialistes et de professionnels. Là où l'arrivée des cryptos, des NFT, etc. est en train de changer la donne. Et on voit des gens qui sont, tu disais, des amateurs, qui sont monsieur et madame tout le monde finalement, qui s'y intéressent, qui développent des choses dessus. À tort, à raison, bien, mal, ça c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser et c'est un petit peu monsieur, madame tout le monde qui peut bien donner son avis, faire des essais, trouver de nouvelles choses. Donc ça, je pense que pour effectivement les marques, encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir laisser de côté parce que c'est un changement fondamental de façon de fonctionner et de positionnement de l'utilisateur face à l'organisation, je dirais, globale. Alors, je ne mets pas les banquiers dans une... Voilà. Mais en tout cas, là où ça reste quand même quelque chose de réglementé, j'allais dire le peuple, alors là, je mets un mot très philosophique, mais voilà, les gens un petit peu essayent de reprendre le pouvoir sur ces éléments-là. Et je trouve que ça dit beaucoup de choses aussi sur notre rapport à l'argent, peut-être, sur notre rapport à notre liberté aussi, j'imagine. Et ça, pour des marques, de fait, c'est super important. Pas forcément très simple, je te cache pas que je sais pas trop, moi, là, tout de suite, comment est-ce qu'une marque doit utiliser ça. Et comment est-ce qu'on doit se positionner, parce que ça reste encore tout nouveau. Moi, la première chose que je ferais, c'est je regarderais, mais bon.
C'est ça, mais je pense que ça peut être un conseil, c'est celui-ci. C'est, je pense, comme toute chose dans le métier de marketeur, c'est avant même de se lancer dans la tendance, c'est peut-être se poser 5 minutes et regarder ce qui se passe, ce qui se dit, la nature des conversations, de regarder par rapport à comment dire, aux objectifs et l'ADN de son entreprise, ce qui fait sens et s'il y a une opportunité d'y aller ou de faire des choses. Parce que je pense que le risque aussi, c'est de vouloir faire parce qu'on fait. Je trouve que d'ailleurs, même, c'était un peu la tendance il y a quelques années autour du podcast. Hein, c'était voilà, tout le monde lançait son podcast. Et donc, du coup, il y a aussi ce risque-là, parfois, d'y aller sans avoir peut-être eu cette réflexion de comment est-ce que ça s'insère dans ma stratégie de marque, qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis des gens que je cible aussi. Donc je pense que c'est aussi un travail d'introspection d'entrepreneur avant toute chose, et derrière ça, peut-être de manière plus pragmatique, réfléchir à parce que derrière le sujet du paiement, il y a aussi des opportunités du type peut-être innover dans sa manière de proposer des modes de paiement ou de transaction, peut-être faciliter l'expérience shopping. Et je pense que de manière connexe à ça, il y a dans le shopping, je pense qu'il y a une chose et un conseil assez simple que je peux redonner ici, qui est choisir les bons formats pour faciliter des ventes sur son site. Alors sur Twitter, tu as des formats qui te permettent de rediriger par exemple vers ton site, ta boutique en ligne, ou vers ton application si tu as une application marchande. Donc ça va être utiliser ces formats cliquables, ou tout simplement on a un format qui s'appelle le carrousel qui te permet de faire défiler tes produits si tu vends des produits. Donc ça va être s'assurer entre guillemets que on a les bons formats pour toucher les personnes qu'on a envie de toucher.
Et tu me disais d'ailleurs, alors je ne sais pas si on peut en parler parce que c'est peut-être des choses qui ne sont pas encore sorties sur Twitter, mais donc je te laisserai dire ce que tu souhaites dire, mais en tout cas il y a des choses qui sont aussi en train de changer, il y a des nouveaux outils qui arrivent pour avoir une expérience de shopping qui va être encore plus immédiate et encore plus directe, parce que c'est ça finalement que nous dit cette évolution de toute cette tendance des paiements, c'est que les gens veulent en tout cas aller vers quelque chose de peut-être plus fluide, plus facile, et d'enlever toutes les barrières.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'on travaille chez Twitter, alors partout dans le monde, à tester de plus en plus de formats, de plus en plus immersifs, pour que les consommateurs aient une expérience qui soit innovante, qui soit sans friction, voilà, qui soit facile. Donc on fait plein de tests partout dans le monde. Il y a un exemple, je pense au live shopping, qui est vraiment une expérience super intéressante dans laquelle tu peux suivre un événement en direct discuter et en même temps acheter, le tout en temps réel depuis Twitter, donc ça pour le coup, depuis le confort de ton canapé. Donc c'est le live shopping, je trouve que c'est vraiment cette innovation qui va nous permettre d'être encore plus proche finalement d'une expérience sans friction. Et donc je trouve que c'est des choses qui peuvent être intéressantes à regarder et à observer quand on fait du marketing, parce que ça dit beaucoup de choses sur nos manières de consommer, nos manières de vouloir peut-être mêler la discussion et l'achat aussi de manière complètement synchrone, parce que souvent c'est asynchrone, hein. Aujourd'hui on va d'une part rechercher un avis et acheter, et le fait de mêler la conversation en direct et un achat, je trouve que c'est vachement puissant. Donc c'est intéressant de voir ça, et puis on teste beaucoup d'autres choses pour permettre aux marques et aux entreprises de valoriser leurs produits directement depuis leur profil sur Twitter.
C'est intéressant ce que tu dis sur ce live shopping. En fait, en t'écoutant, ce que j'en comprends, c'est qu'on est en train, et c'est à mon avis une bonne chose, on est en train de recréer sur le digital, donc le digital de fait à distance, exactement ce qui se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, si tu es dans un magasin, tu vas acheter des chaussures, tu es dans un magasin, bah, probablement tu vas commencer par regarder tes chaussures, les différents modèles, etc., te faire une idée, tiens, qu'est-ce qui me plaît, le marron, le cuir, le pas cuir, les talons, j'en sais rien. Et puis à un moment donné, tu vas avoir un vendeur ou une vendeuse qui va peut-être s'approcher de toi et te proposer son aide, et tu vas pouvoir échanger, lui poser des questions et finalement choisir sur le moment. Ce que tu es en train de dire avec ces histoires de live shopping et de pouvoir au même moment avoir cette discussion, cet acte d'achat, cet échange, etc., c'est un peu ça, c'est qu'on est en train de recréer ce qui se passe dans la vie réelle quand on va dans un magasin finalement.
Oui, c'est ça, à la mesure où je pense que tu as aussi les gens qui sont avec toi, c'est-à-dire que tu as effectivement le vendeur ou la vendeuse, mais le fait aussi d'avoir virtuellement avec toi potentiellement tes copines, ton mari, j'allais dire ton chat parce que j'ai mon chat à côté, oui. Mais tu vois, d'avoir finalement tout ton environnement social qui t'accompagne dans ton expérience de shopping. Et ça, je trouve que c'est assez puissant, parce qu'on a rarement la possibilité de faire un shopping avec tous les gens et avoir l'avis de tout le monde.
Donc, voir avec des gens qu'on ne connaît même pas et qui nous donnent leur avis, parce qu'ils nous disent « Attends, mais moi, je les ai achetées, ces chaussures-là, et je les trouve vachement bien », ou au contraire, pas bien du tout.
C'est ça, qui arrive parfois dans la vraie vie, mais c'est pas toujours le cas, ou c'est parfois un peu bizarre, mais mais parfois spontanément, effectivement, dans des magasins, tu peux avoir une personne qui passe à côté qui dit ah oui, je viens d'acheter ce truc là, c'est trop bien, j'en rachète un. Mais c'est sûr que on retrouve, comme tu le dis, les codes de la vraie vie dans le social, c'est-à-dire que la pertinence de l'avis de quelqu'un, il est tout aussi vrai, hein, dans le digital que dans la vraie vie, et ça renforce bien l'importance finalement de tout ce qu'on se disait tout à l'heure sur l'importance de travailler à son image de marque, le fait d'être présent en tant que marque pour avoir du service client autour de ses produits, pour faire en sorte que les gens aient cette image positive pour avoir envie d'acheter, acheter à nouveau, le conseiller, le recommander, etc.
Génial. On s'est dit déjà plein de choses là sur ces trois tendances Ikram. Si les gens veulent en savoir plus sur ces tendances, je crois que l'étude vient de sortir. Mais il me semble, tu me disais, alors évidemment moi je suis sensible à ça, tu me disais que sur Twitter vous allez faire des live audio pour rentrer justement dans ces sujets et en parler peut-être encore plus en profondeur. Est-ce que tu peux nous dire comment faire si on veut y participer, écouter, parce que tu disais qu'on pourra en plus échanger, vous poser des questions, etc.
Oui, tout à fait. Alors, donc, en cette rentrée, tu pourras effectivement accéder à ce qu'on appelle des spaces, qui sont des talks audio en live sur Twitter. Il suffit donc d'aller sur Twitter. Et donc, tu peux suivre notre compte marketing. Donc, c'est Twitter Marketing France, @TwitterMKTGFR, sur lequel on va poster ces fameux live audio dans lesquels on va inviter des personnes qui sont issues de ces univers. Donc, on va faire un spaces sur les fans, un spaces sur la planète, un spaces sur la finance, peut-être même d'autres sur la Coupe du Monde. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est effectivement, un, de nous suivre sur le compte Twitter Marketing, et deux, activer les notifications, parce que ça vous permet de savoir quand on lance un live audio. Donc, ça vous permettra de découvrir, je dirais, d'aller un petit peu plus loin que ce que j'ai dit là aujourd'hui, parce qu'on aura le point de vue et des perspectives différentes issues d'experts de chacune de ces tendances-là. Donc, je pense que ça va être passionnant. Donc, j'espère que vous serez de la partie. Et comme tu le disais, vous avez la possibilité de rejoindre la conversation et même potentiellement d'interagir, enfin de poser des questions, de réagir en direct. Donc, c'est vraiment pour le coup une conversation qui est ouverte à tout le monde.
Bon, ben génial. Ben voilà, ben si vous êtes intéressé par les tendances sociétales, vous voulez en savoir encore plus, il y aura des spécialistes de chacune des tendances. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Je mettrai évidemment le lien sur les notes de l'épisode. Ikram, si on veut en savoir plus sur toi, si on veut peut-être échanger avec toi, est-ce qu'il y a un endroit particulier où on peut le faire ?
Oui, alors pour le coup, mon compte Twitter.
Ah oui.
Donc, et c'est tout simplement mon prénom, @ikram, qui est IKRME. Mais c'est vrai que du coup, je suis derrière notre compte Marketing France. Donc, j'aurais plaisir à échanger avec tout le monde aussi via notre compte Marketing.
C'est bien d'être directrice marketing chez Twitter France. On a son at à soi, juste à son prénom. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Ikram. T'es la bienvenue quand tu veux sur le podcast du marketing.
Merci, Estelle.
Si vous avez aimé cet épisode et que ça n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner au podcast sur la plateforme que vous écoutez. Ça vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode. Et encore mieux, je vous invite à rejoindre les plus de 8000 personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Vous aurez un avant-goût de l'épisode de la semaine, mais aussi mes bons plans, un accès libre à tous mes cadeaux bonus et des invitations exclusives aux événements auxquels je participe en ligne ou en présentiel. Pour nous rejoindre, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous mets le lien, bien sûr, en commentaire. Je vous dis à très vite.